On cherche.
Hein, on s'en va au cirque.
Oui, on cherche la mélodie. C'est quoi cette chanson-là? Curé du village, je sais pas trop où.
S'en va à la chasse.
Un mille à pied, ça rentre.
Non, c'est pas ça.
Non. C'était plus le curé du village. Mais là, c'était pas le curé du village. Non. C'était Spinning Wheel par Blood, Sweat and Tears.
Le groupe Blood, Sweat and Tears, que souvent j'ai entendu des gens les appeler Sweet. C'est Sweat.
Bon, merci.
Sweet, ça veut dire sucré. Sweat, ça veut dire sueur.
D'ailleurs,
je vais vous parler.
Du sang, de la sueur et des larmes.
C'est ça, je vous en parlerai un peu plus tard d'où vient ce titre, ce nom. Là, du groupe Blood, Sweat and Tears. Ça, c'est ça, sans sueur et larmes, et on est content que ce soit arrêté là dans l'énumération des fluides corporels.
Mm-hmm.
Après
humeurs.
Avoir entendu parler des humeurs de la bile.
Bile noire, bile jaune.
On n'aimera pas ceux qui restent. Bon.
Ça, donc, pour nous parler de David Clayton Thomas, qui est mort le 24 juin dernier.
La voix qu'on entendait était celle de David Clayton Thomas. Et souvent, des personnes pensaient que c'était un chanteur noir. C'est vrai qu'il y a une voix large, imposante, puissante. C'est un chanteur blanc canadien qui était né à Toronto. Donc, je vous parle de lui un peu. Son vrai nom à la naissance, c'était David Henry Thomsett. Donc, Thomsett, ça ressemble un peu à Thomas, là, mais son vrai nom, c'est Thomsett. Il était né le 13 septembre 1941 à Kingston-upon-Thames. Erreur en partant, là. C'est un Canadien, mais il est né en Angleterre.
Ah bon, d'accord.
Il a vécu au Canada, mais il est né... donc, à Kingston-upon-Thames, au Surrey, en Angleterre. Et il est décédé le 24 juin 2006 à Toronto.
Alors, 2006?
2026. Ouais, j'ai le zéro. On a fil pour ça devant moi.
Il manquait 20 ans.
Oui. Donc, mort le 24 juin 2026 à Toronto, une semaine après ma dernière chronique. C'est pour ça que ça a été long avant que je vous en parle. Donc, il est de nationalité canadienne et américaine, même s'il est né en Angleterre. C'est tout un mélange quand même. Donc, c'est un auteur, compositeur, interprète, guitariste, réalisateur, artistique, chanteur. Donc, c'est
quand même multidisciplinaire.
Ouais, multidisciplinaire. Très talentueux. Son père était Fred Thomsett, d'où le nom de naissance, qui était, lui, un soldat canadien décoré de la Seconde Guerre mondiale. Il était stationné en Angleterre. C'est comme ça qu'il a rencontré la mère, qui s'appelait Frida May.
Fred et Freda.
Oui, Frida ou Freda, en tout cas. Frida May, qui était une pianiste. Donc, son talent musical viendrait du côté de sa mère, hein, logiquement. Et elle était venue divertir les troupes de l'armée dans un hôpital de Londres. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Et après la guerre, la famille se sont installés à Willowdale, en banlieue de Toronto, au nord de la 401, j'ai vérifié. Ceux qu'il y a, ne disaient pas n'importe quoi.
Ouais.
Et à 14 ans, il y a eu une enfance difficile un peu. Ça revient souvent, malheureusement, mais bon.
Après la pause.
Oui, apparemment, son père, probablement, un traumatisme de la guerre, tout ça. Il était violent, il était alcoolique, tout ça. Bon,
ça
tous les problèmes.
Souvent,
ouais, tous les problèmes qu'on entend souvent. Donc, le jeune David, ça n'allait pas du tout avec son père. À 14 ans, il a quitté la maison. Il vivait un petit peu dans la rue, il volait, il a passé une partie de sa jeunesse en prison parce qu'il se faisait prendre quand même à l'occasion. Et ça n'a pas été une mauvaise chose dans un sens parce qu'il a appris à jouer de la guitare en prison.
Au cachot?
Oui. Quand un des prisonniers, de ses co-détenus ou collègues, je ne sais pas comment on peut les appeler, est parti, il a laissé...
ses collègues.
Collègues, oui.
Un chum de cellule. Quand son collègue,
chum
de cellule, est parti, il a laissé sa guitare. Fait que lui, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire, donc il a pratiqué beaucoup la guitare. Et quand il est sorti de prison en 1962, il s'est rendu sur la rue Yonge à Toronto, qui est quand même un endroit assez achalandé.
Là, il avait 19 ans.
Là, il avait voix, vrai. Et il a changé son nom pour un petit peu effacer son passé, parce que ça nous suit, hein, ça.
Oui, on peut comprendre.
Donc là, il est passé de David Henry Thomsett à David Clayton Thomas. Ça ressemblait un peu quand même, mais pour lui, c'était comme une coupure.
Il voulait faire une coupure, oui.
Il voulait faire une coupure. Il a commencé à jouer de la musique R&B de Détroit et Chicago, qui était très en vogue à cette époque-là. À cet endroit-là, il y a beaucoup d'Américains. C'est pas loin, hein, Détroit-Toronto.
Non.
Il y a beaucoup d'Américains qui venaient jouer ici. Et en 1964, à l'époque des Beatles, lui, il a parti son premier groupe qui s'appelait Clayton Thomas and the Shays. Et il a enregistré quelques chansons, dont une de John Lee Hooker, qui est un bluesman très, très populaire à l'époque. Il a été invité par nul autre que Paul Anka à l'émission Hula Baloo. Oui, oui. Donc, il a été invité à une émission sur NBC à New York. Parce que là, il commençait, lui aussi, Paul Anka, à faire une carrière américaine. Son groupe a lancé deux albums en 65 et 66. Et ensuite, il a eu un deuxième groupe qui s'appelait The Bossman. Et il a écrit à ce moment-là une chanson qui s'appelait Brainwashed, qui était un genre de contestation contre la guerre au Vietnam. Ça commençait à monter. On n'était pas encore dans le pire, là, à la fin des années 60, mais il commençait à avoir beaucoup de contestations contre la guerre du Vietnam. Et cette chanson-là s'est quand même placée sur les palmarès. Moi, je ne l'ai pas entendue, parce qu'à cette époque-là, on entendait pas mal plus des choses qui venaient de chez nous. Ce qui venait de Toronto, c'était un autre pays. On ne savait pas ce qui se passait là. On vous pourrait écouter un extrait de ce qu'il faisait avant d'être dans le groupe... Blood, Sweat and Tears.
Boom, 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 boom. You knock me out. Make me jump and shout. Make me work it on out. With that crazy walk. And that crazy talk. Wow! Walk that walk.
On
est dans les années 60, et puis les chansons qu'on vient d'entendre, c'était bien entendu Boom Boom de John Lee Hooker, Walk That Walk et Brainwashed, c'est la chanson anti-guerre du Vietnam, ouais. On va dire. Puis déjà là, vous avez remarqué une évolution. La première chanson, Boom Boom, on ne reconnaissait pas sa voix du tout. La deuxième, on commençait, ceux qui le connaissent, on commençait à la reconnaître. Puis Brainwash, là, c'était comme, OK, dans le tapis, là, c'était un protest song, ouais. Là, fallait que ça blaste un peu. Donc, on voyait que ça évoluait assez vite. Et il a joué un certain temps avec John Lee Hooker à Yorkville, en Ontario. Et après ça, il est parti avec John Lee Hooker pour commencer à jouer à New York. Ils ont fait un bout de temps ensemble.
Y a-t-il fait quelque chose avec Paul Anka? Vous parliez de
Paul Anka l'avait engagé, mais je pense pas, non, qu'il ait travaillé vraiment avec Paul Anka. Et animait, ouais, puis Paul Anka animait l'émission à cette époque-là. Donc, John Lee Hooker, il a quitté pour faire une tournée en Europe à un moment donné, mais David Clayton Thomas est resté à New York. Et il y avait un groupe qui s'appelait Blood, Sweat and Tears, qui existait déjà, qui venait de lancer un album. Et celui qui avait lancé ce groupe-là à l'époque, c'était Al Cooper. Rien à voir avec Alice Cooper, là. Al Cooper, qui était un chanteur, claviériste, auteur-compositeur, qui avait joué d'ailleurs, c'est lui qui jouait de l'orgue sur... Like Rolling Stone de Bob Dylan.
Oui, ah oui.
Ouais. C'était quand même quelqu'un qui était déjà assez connu à l'époque. Petite histoire courte là-dessus. Lui-même, Al Cooper, quand il parlait de... Quand on lui posait la question d'où vient le nom Blood, Sweat and Tears, il essayait de mettre ça bien poétique puis dire... Un soir, je jouais avec B.B. King. C'était tellement intense. Mes doigts étaient en sang et je suais tellement j'avais chaud. Et... C'est tellement intense que j'en avais les larmes aux yeux, donc j'ai pensé Blood, Sweat and Tears. J'ai vu une entrevue avec un des musiciens de Blood, Sweat and Tears dernièrement sur YouTube, il trouvait ça bien drôle, il dit « c'est pas ça pantoute ».
Il y avait une autre version, lui.
C'est vraiment pas comme ça, c'est arrivé. Il dit « Al Cooper, c'était celui qui voulait vraiment que le groupe fonctionne, il y avait des contacts, il essayait de contacter les promoteurs, tout ça, il essayait de vendre le projet ». Puis à un moment donné, en parlant avec un promoteur, le promoteur il a posé la question « c'est quoi le nom de votre groupe ?» Les autres, ils n'avaient pas pensé à ça. Il n'y avait pas encore de nom, tu sais. Fait que là, il s'est mis à regarder en terre parce qu'il y avait plein d'albums des longs jeux, comme on appelait
ouais,
dans le temps.
Des 33 vinyles, tours.
Plein d'albums détalés un peu partout au sol. Là, parce que... Puis là, à un moment donné, il a vu, devinerai jamais, un album de Johnny Cash de 1963 qui avait pour titre « Blood, Sweat and Tears ». Puis ça, j'ai vérifié, j'ai fait une recherche.
Ah,
il y a vraiment
c'est
une...
vrai.
Ouais, ouais, ouais. Fait que lui, il regardait tout ça, puis à un moment donné, il a vu « Hey, puis c'est bon ça, Blood, Sweat and Tears
ah. ».
Fait que là, il a dit au promoteur, on s'appelle « Blood, Sweat and Tears ».
Merci Johnny Cash.
Ouais, merci Johnny Cash. Fait que toute l'histoire, ça, c'était vraiment juste pour rendre ça un peu plus intéressant. Donc, après le premier album, Blood, Sweat and Tears, Al Kooper est parti, a quitté le groupe parce qu'il trouvait que le résultat n'était pas à son goût, blablabla. Mais les gars voulaient continuer. Il y avait déjà des engagements suite au lancement de l'album. Ils ont dit « on n'arrêtera pas ça là ». Ils ont passé des auditions et quelqu'un connaissait, avait déjà entendu David Clayton Thomas, l'invité à passer l'audition. Et après les deux, trois premiers mots qu'il a chanté, tout le monde a fait « OK, c'est lui ». C'est comme il y avait une voix envahissante, ça remplissait le studio. C'est comme ça que la carrière avec Blood, Sweat and Tears a commencé. Je me souviens pas, je pense que c'est en 69 qu'ils ont sorti leur deuxième album. Okay, le premier album de Blood, Sweat and Tears, c'était en 1968. Qui a déjà quand même vendu 10 millions de copies dans... C'est pas, c'était pas,
wow!
Pas
10 mal, millions! Quoi.
Le Blood, Sweat and... Le premier album portait un autre titre. Il y avait le nom du groupe, mais le premier album qui porte le titre de Blood, Sweat and Tears, c'est lui qui a vendu 10 millions.
Okay.
C'est lui qui avait la chanson Spinning Wheel dessus.
Ah, c'est cette chanson-là qui a fait en sorte que ça a explosé.
Qui a vraiment lancé l'album. Il a été au Billboard pendant 109 semaines. C'est quand même quelque chose. Il a remporté 5 Grammys en 70, parce que l'album était lancé en 69.
Super succès.
L'album de l'année, meilleure performance vocale, sans surprise, et d'autres, j'imagine, la pochette, je ne sais pas quoi. Et il y a eu 3 45 tours de cet album qui ont été des hits. You've Made Me So Very Happy. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je l'ai gardé pour la fin, celle-là. Okay. Vous allez sûrement la reconnaître. Spinning Wheel, puis And When I Die. And When I Die, ça me tente pas.
C'est quoi? C'est sombre?
Ben, non, c'est pas si mal quand même. C'est juste que c'est une chanson qui change de rythme souvent. Des fois, c'est un petit peu country, c'est un petit peu... On va peut-être entendre un petit bout. Je me souviens pas dans les extraits, j'en ai mis beaucoup. On va avoir une chance d'en entendre. Et il y a même sur cet album-là, il y a une reprise d'une chanson de Billie Holiday, God Bless the Child. Et c'est là qu'on voit le talent de ces musiciens-là. Ça faisait un petit peu contraste à l'époque. Il y avait beaucoup de musiciens, bon, plus rock and roll, rock, pop, en tout cas. Il y avait toute une panoplie. Eux, c'était vraiment des musiciens plus de jazz qui faisaient de la musique jazz-rock un peu. Il y a beaucoup de monde qui les compare au groupe Chicago.
Mm-hmm,
c'était
c'est
pas
vrai,
mal
il y a des
la même son. À mon avis, la voix de David Clayton Thomas était supérieure, là, mais quand même, le style ressemblait beaucoup. Donc, on pourrait écouter des extraits justement pour vous donner une idée de l'étendue de leur talent. Smiling faces, going places. And if they buster you, just keep on smiling through and through. And you'll be amazed at the gaze on their faces as they sentence you.
That's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child that's got his own will. That's got his own.
if it's peace you find in dying, well then let the time be near. If it's peace you find in dying, and if dying time is near, just bundle up my coffin, cause it's cold way down there. I hear that it's cold way down there, yeah, crazy cold way down there. And when I die and when I'm gone, there'll be one child born.
Blood, Sweat and Tears, et je demandais en dehors des ondes à Daniel, est-ce que c'est un groupe qui avait une personnalité? Ils ont connu beaucoup de succès, puis à un moment donné, ça s'est comme un peu dilué.
Il y a deux raisons. Premièrement, il y a eu une occasion manquée, que je dirais. Blood, Sweat and Tears était en presque vedette au Festival Woodstock en 69. La vedette, c'était Jimi Hendrix qui passait en dernier. Ouais. Blood, Sweat and Tears passait juste avant Hendrix. Et là, c'est la troisième journée, on s'était déjà rendu compte que les promoteurs n'auraient pas d'argent pour payer les artistes parce que tout le monde rentrait gratuitement. C'était le bordel, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Ben, je n'étais pas là, mais ouais, je me souviens d'avoir vu le film.
On a tellement entendu parler, oui. Donc, le promoteur a dit, il voyait qu'il y a des gens qui étaient en train de filmer. Vous ne payez pas, vous ne filmez pas. Pas question de... Ça a été une erreur parce qu'il aurait pu être dans le film Woodstock, ça aurait pu être très bon pour leur carrière. Première erreur. Deuxième chose, c'est pas vraiment une erreur, mais David Clayton Thomas, je vous ai dit tantôt, bon, il y avait un casier judiciaire au Canada parce qu'il y avait plusieurs vols, des violences, tout ça. Bon, à un moment donné, aux États-Unis, il travaillait aux États-Unis, son visa était échu. Avant de le renouveler, ils ont fait une petite enquête, ils ont fait « Hey man, t'es pas trop recommandable chez nous ». Mais c'était l'administration Nixon. Puis, ils savaient que David Clayton Thomas était beaucoup contre la guerre au Vietnam, tout ça. Fait que ça les vexait un peu qu'un petit Canadien qui a un dossier judiciaire vienne leur faire la leçon chez eux de dire contre la guerre, tout ça. Fait qu'ils ont dit « On va y serrer la vis un peu ». Ils ont offert aux bandes, si vous voulez que votre gars ait un visa de travail et puisse continuer à travailler ici, vous allez faire une tournée en Europe de l'Est pour l'armée américaine, pour faire un petit genre, tu sais, essayer d'amoindrir les relations entre les pays, parce que c'était la période de la guerre froide. À partir du moment où ils ont accepté de faire ça, il n'y avait pas le choix, ils ont accepté, sinon le band est fini. À partir du moment où ils ont accepté de faire ça, bien, la nouvelle s'est propagée. Là, à l'époque, c'était donc très mal vu. Hein. Fait que là, Blood, Sweat and Tears, c'était des traites, c'était des ci, des ça, tout le mouvement contre-culture, ils ont traîné dans la boue.
Donc, est-ce que les musiciens qui faisaient partie du groupe ont délaissé le chanteur?
Non, ils sont allés quand même par solidarité, mais il y en a qui l'ont regretté un peu parce que, bon, c'était un gros sacrifice pour eux. Et après ça, leur carrière n'a pas été complètement finie, mais ça a toujours été beaucoup plus difficile. Ouais. On n'entendait presque plus parler d'eux autres, même s'ils faisaient des tournées. Mm-hmm. Puis finalement, David Clayton Thomas a quitté le groupe en 1972 parce qu'il était épuisé, puis toutes ces histoires-là, c'était trop. Il est quand même revenu en 75, il est reparti pour faire une carrière solo. Mais sa meilleure époque, c'était vraiment 69-70, mettons. C'est là. Il a quand même fait toutes les grandes salles dans le monde, le Royal Albert Hall, toutes ces places-là.
Donc, belle carrière.
Il y a eu une très belle carrière.
Avec des moments plus
difficiles. Oui, et il disait, je l'ai vu dans une entrevue il y a quelques années, sa grande fierté aussi, c'est qu'il avait réussi à aller faire un concert au Massey Hall à Toronto. Il dit, j'ai joué partout dans le monde, les plus belles grandes salles, puis j'avais jamais joué ici. Donc, il était très content d'avoir pu faire ça.
Et parlant de très content, il y a une chanson qui...
Oui, you make me very happy. C'est pour ça que je vais finir sur une note positive.
Joyeuse.
You make me very happy.
Merci beaucoup, Daniel. On se retrouve un jour.
Ah, peut-être un mois.
Dans deux, trois semaines.
Trois
semaines, un mois. Merci. Merci aussi à Serge Bradet. À la prochaine.
Bye.
I lost that love before, got mad and closed the door, but you said, child, just once more.